Chapitre 28. Je n'ai pas envie de faire la sieste cet après-midi. Il y a encore trop d'adrénaline. Je suis assise sur le rebord de la fenêtre, à regarder au dehors à travers la semi-transparence des rideaux. Chemise de nuit blanche. La fenêtre est aussi ouverte qu'elle peut l'être. Il y a de la brise, chaude dans le soleil, et le tissu blanc me balaie la figure. De l'extérieur, je dois ressembler à un cocon, un spectre, le visage voilé d'un linceul, ne laissant voir que les contours, le nez, la bouche bandée, les yeux aveugles. Mais j'aime cette sensation, le tissu doux qui caresse la peau. C'est comme si j'étais dans un nuage. On m'a donné un petit ventilateur électrique, fort utile par cette humidité. Il ronronne par terre, dans le coin. Ses pales sont enfermées derrière un grillage. Si j'étais Moira, je saurais le démonter, le réduire à ses arêtes tranchantes. Je n'ai pas de tournevis, mais si j'étais Moira, j'y parviendrais sans tournevis. Je ne suis pas Moira. Que me dirait-elle à propos du commandant s'il était là? Elle serait probablement contre. Elle était contre Luc dans le temps. Ce n'était pas Luc qu'elle critiquait, mais le fait qu'il soit marié. Elle disait que je braconnais sur le territoire d'une autre femme. Je répondais que Luc n'était pas un poisson, ni un tas de saleté, que c'était un être humain et qu'il pouvait prendre ses propres décisions. Elle disait que je rationalisais. Je répondais que j'étais amoureuse. Elle disait que ce n'était pas une excuse. Moira était toujours plus logique que moi. Je lui disais qu'elle-même n'avait plus ce problème puisqu'elle avait décidé de préférer les femmes et qu'à ma connaissance, elle n'avait aucun scrupule à les voler ou les emprunter quand elle en avait envie. Elle répondait que ce n'était pas la même chose, parce que le rapport de force était équilibré entre femmes, de sorte que les relations sexuelles étaient une affaire entre Jules. Je disais qu'une affaire entre Jules était une expression sexiste, si elle voulait aller par là, et que de toute façon, cet argument était dépassé. Elle répondait que je banalisais le problème, et que si je croyais qu'il était dépassé, c'est que je vivais la tête enfoncée dans le sable. Nous disions tout cela dans ma cuisine, en buvant du café, et en parlant de cette voix basse, intense, que nous adoptions pour ce genre de discussion, quand nous avions tout juste 20 ans. Un reste de l'université. La cuisine était dans un appartement délabré d'une maison en planches, près de la rivière. Une de ces maisons à 3 étages, avec un escalier extérieur branlant à l'arrière. J'occupais le 2e étage, et je bénéficiais donc des bruits du dessus et du dessous. 2 maudits tourne-disques stéréo qui résonnaient jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Des étudiants, je le savais. J'en étais à mon premier boulot, qui n'était guère payé. J'étais opératrice d'ordinateur dans une compagnie d'assurance. C'est pourquoi les hôtels avec Luc ne représentaient pas seulement à mes yeux l'amour ou même les rapports sexuels. Ils représentaient un moment loin des cafards, de l'évier qui goûtait, du linoléum qui s'écaillait par plaques. Et même loin de mes propres tentatives d'égayer les lieux en collant des affiches sur le mur et en suspendant des prismes aux fenêtres. J'avais aussi des plantes, mais elles attrapaient toujours des acariens, ou mouraient, faute d'être arrosées. Je partais avec Luc et je les négligeais. J'ai dit qu'il y avait plus d'une façon de vivre la tête dans le sable, et que si Moira croyait pouvoir créer l'utopie en s'enfermant dans une enclave réservée aux femmes, elle se trompait lourdement. Les hommes n'allaient pas tout simplement disparaître. On ne pouvait pas feindre de les ignorer.
C'est comme si tu disais qu'il faut attraper la syphilis simplement parce qu'elle existe,
a dit Moira.
Est-ce que tu traites Luc de maladie sociale? Moira a ri. Tu nous entends?
Merde, on dirait ta mère. Alors nous avons ri ensemble et quand elle est partie, nous nous sommes embrassés, comme d'habitude. Il y a eu un moment où nous ne nous embrassions pas, quand elle m'avait dit qu'elle était lesbienne. Puis elle m'a dit que je ne l'excitais pas, ce qui m'a rassurée. Et nous avons repris nos habitudes.
Nous pouvions nous disputer, nous chamailler et nous traiter de tous les noms. Mais ça ne changeait rien au fond. Elle était toujours ma plus vieille amie. Elle l'est. Après, j'ai eu un appartement plus confortable, où j'ai vécu les 2 années que cela a pris à Luc pour se décoller. Je le payais de ma poche, grâce à mon nouveau job. Je travaillais dans une bibliothèque. Pas la grande avec la mort et la victoire, une plus petite. Mon travail consistait à transférer des livres sur des disques d'ordinateur, pour économiser l'espace de rangement et les coûts de remplacement, disait-on. Nous nous appelions des disqueurs. Nous appelions la bibliothèque discothèque. C'était une plaisanterie entre nous. Une fois transférés, les livres étaient censés aller à l'effilocheuse, mais quelquefois, je les rapportais à la maison. J'aimais leur toucher, leur aspect. Luc disait que j'avais une mentalité d'antiquaire. Ça lui plaisait. Il aimait lui aussi les vieilles choses. Ça fait bizarre maintenant de penser à avoir un job. Job. C'est un drôle de mot. C'est un job d'homme. Fais ton petit job, disait-on aux enfants quand on leur apprenait à être propre. Ou, parlant d'un chien, il a fait un vilain job sur le tapis. Il fallait alors le frapper avec un journal roulé, disait ma mère. Je me souviens du temps où il y avait des journaux. Mais je n'ai jamais eu de chien, seulement des chats. Le livre de Job. Toutes ces femmes qui avaient un job, difficile à imaginer à présent, mais des milliers, des millions de femmes avaient un job. C'était considéré comme une chose normale. Maintenant, c'est comme repenser au papier monnaie, quand il existait encore. Ma mère conservait quelques billets collés dans son album avec les premières photos. Ils étaient déjà périmés, on ne pouvait rien acheter avec. Morceaux de papier épais, graisseux au toucher, colorés de vert, avec des images des deux côtés. Sur une face, un vieux monsieur avec une perruque, et sur l'autre, une pyramide, surmontée d'un œil. C'était écrit « Notre confiance est en Dieu ». Ma mère disait que certains commerçants mettaient des écriteaux à côté de leur caisse enregistreuse pour plaisanter. « Notre confiance est en Dieu, tous les autres doivent payer comptant. » Ce serait un blasphème aujourd'hui. Il fallait emporter ces bouts de papier avec soi quand on allait faire des courses. Mais quand j'avais 9 ou 10 ans, les gens utilisaient des cartes en matière plastique. Pas encore pour l'épicerie, c'est venu plus tard. Cela semble si primitif, totémique même, comme des coris, ces coquillages qui servaient de monnaie. J'ai dû utiliser ce genre d'argent moi aussi, un peu, avant que tout ne passe sur l'ordinabanque. Je suppose que c'est pour ça qu'ils ont pu le faire, de la manière dont ils l'ont fait, tout d'un coup, sans que personne ne sache rien à l'avance. S'il y avait encore eu de l'argent liquide, ça aurait été plus difficile. C'était après la catastrophe, quand ils ont abattu le président, mitraillé le Congrès et que les militaires ont déclaré l'état d'urgence. Ils ont rejeté la faute sur les fanatiques islamiques à l'époque. « Restez calme, » disait la télévision. « La situation est entièrement maîtrisée. » J'étais abasourdie. Tout le monde l'était. Je le sais. C'était difficile à croire. Le gouvernement tout entier disparut comme dans une trappe. Comment sont-ils entrés? Comment cela s'est-il passé? C'est à ce moment-là qu'ils ont suspendu la Constitution. Ils disaient que ce serait temporaire. Il n'y a même pas eu d'émeute dans la rue. Les gens restaient chez eux le soir à regarder la télévision, à chercher à s'orienter. Il n'y avait même pas un ennemi sur lequel mettre le doigt. « Attention !» m'a dit Moira au téléphone. « Ça y est. »« Ça y est ? Quoi ?»« Attends un peu. Ça fait un moment qu'ils sont en train de monter ça. Toi et moi, on a le dos au mur, ma belle. » Elle citait une expression de ma mère. Mais elle n'avait pas l'intention d'être drôle. Tout s'est maintenu dans cette atmosphère d'animation suspendue pendant plusieurs semaines. Quoi qu'il se soit passé un certain nombre de choses. Les journaux ont été censurés, et certains ont cessé de paraître. Pour des raisons de sécurité, a-t-on dit. Les barrages sur les routes ont commencé à apparaître, ainsi que les identipasses. Tout le monde était pour, car il était évident que l'on ne pouvait être trop prudent. Ils ont dit qu'il y aurait de nouvelles élections, mais qu'il fallait un certain temps pour les préparer. Ce qu'il fallait faire, disait-il, c'était continuer à vivre, comme d'habitude. Pourtant, on a fermé les pornos au marché, et il n'y avait plus de tripato-porteurs, ni de forniquettes à roulettes qui rôdaient autour de la place. Mais je n'étais pas triste de les voir disparaître. Tout le monde savait à quel point ça avait été gênant. « Il était grand temps que quelqu'un fasse quelque chose !» dit la femme qui tenait le comptoir dans le magasin où j'avais l'habitude d'acheter mes cigarettes. Il se trouvait au coin de la rue. C'était un stand de presse. Journaux, bonbons, cigarettes. C'était une femme assez âgée, aux cheveux gris, de la génération de ma mère. J'ai demandé « Est-ce qu'ils les ont juste fermés ou quoi ?» Elle a haussé les épaules. « Qui sait? Qu'est-ce que ça peut faire ?»« Peut-être les ont-ils seulement déplacés ailleurs ?»« Essayer de s'en débarrasser complètement, c'est comme essayer de détruire toutes les souris, voyez-vous » Elle a composé mon ordi numéro sur la caisse enregistreuse, quasiment sans le vérifier. J'étais alors une cliente régulière. « Les gens se plaignaient », a-t-elle ajouté. Le lendemain matin, en partant travailler à la bibliothèque, je me suis arrêtée au même magasin pour acheter un autre paquet, car je n'en avais plus. Je fumais davantage à ce moment-là. C'était la tension. On pouvait la sentir, comme un bourdonnement souterrain, comme si tout paraissait relativement calme. Je buvais davantage de café aussi, et j'avais du mal à dormir. Tout le monde était un peu nerveux. Il y avait beaucoup plus de musique à la radio que d'habitude, et moins de paroles. Nous étions déjà mariés, depuis des années, semblait-il. Elle avait 3 ou 4 ans. Elle était au jardin d'enfants. Nous nous étions tous levés, comme d'habitude, et avions pris le petit déjeuner. Des céréales, je m'en souviens. Et Luc l'avait conduite à l'école, vêtue du petit ensemble que je venais de lui acheter quelques semaines plus tôt. Une salopette rayée et un t-shirt bleu. Quel mois était-ce ? Ce devait être septembre. Un quart scolaire était censé les ramasser, mais pour certaines raisons, j'avais voulu que Luc l'emmène. Même le quart scolaire commençait à me faire peur. Aucun enfant ne se rendait plus à l'école à pied. Il y avait eu trop de disparitions. Quand je suis arrivée à la boutique du coin, la femme habituelle n'y était pas. À sa place, il y avait un jeune homme. Il ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. « Elle est malade ?» lui ai-je demandé en lui tendant ma carte. « Qui » a-t-il fait, d'un ton qui m'a paru agressif. « La femme qui est là, d'habitude. » « Comment voulez-vous que je le sache ?» Il composait mon numéro en examinant chaque chiffre et pianotait d'un seul doigt. De toute évidence, il n'avait jamais fait cela de sa vie. Je tambourinais sur le comptoir, impatiente de fumer une cigarette, tout en me demandant si quelqu'un lui avait jamais dit que l'on pouvait faire quelque chose contre ces furoncles qu'il avait dans le cou. Je me souviens très nettement de son physique, grand, légèrement voûté, cheveux noirs coupés courts, yeux marrons qui semblaient converger 4 centimètres au-dessus de l'arête de mon nez. Et cette acné. Je suppose que si je m'en souviens si nettement, c'est à cause de ce qu'il a dit après. « Désolé, ce numéro n'est pas valable. » J'ai dit « C'est ridicule. » « Bien sûr qu'il l'est. J'ai plusieurs milliers de dollars sur mon compte. J'ai reçu mon relevé il y a 2 jours. Essayez encore. » « Il n'est pas valable. » « Il n'est pas valable, » répétait-il avec obstination. « Regardez le voyant rouge. Ça veut dire qu'il n'est pas valable. » « Vous avez dû faire une erreur. Essayez encore une fois. » Il a haussé les épaules et m'a lancé un sourire là. Mais il a encore essayé le numéro. Cette fois, je surveillais ses doigts à chaque chiffre et vérifiais ceux qui apparaissaient sur l'écran. C'était bien mon numéro. Mais le voyant rouge s'allumait toujours. « Vous voyez ?» a-t-il répété, toujours avec ce sourire, comme s'il était au courant d'une blague secrète qu'il n'avait pas l'intention de me dire, Je leur téléphonerai du bureau. Il était déjà arrivé que le système se détraque, mais en général, quelques coups de téléphone arrangeaient les choses. Pourtant, j'étais en colère. Comme si j'avais été accusée injustement de quelque chose dont je n'étais même pas informée. Comme si j'avais commis l'erreur moi-même. Pourquoi pas ? A-t-il dit avec indifférence. J'ai laissé les cigarettes sur le comptoir, puisque je ne les avais pas payées. Je pensais que je pourrais en emprunter au bureau. J'ai effectivement téléphoné du bureau, mais n'ai obtenu qu'un enregistrement. « Les lignes sont surchargées », disait le disque. « Veuillez rappeler plus tard. » Les lignes sont restées surchargées toute la matinée, d'après ce que j'ai pu constater. J'ai rappelé à plusieurs reprises, mais sans succès. Même cela n'était pas trop inhabituel. Vers 2 heures, après le déjeuner, le directeur est venu dans la salle des disques. « J'ai quelque chose à vous dire », a-t-il annoncé. Il avait une tête épouvantable, les cheveux en bataille, les yeux roses et vacillants, comme s'il avait bu. Nous avons tous levé les yeux, arrêté nos machines. Nous devions être 8 ou 10 dans la pièce. « Je suis désolé », a-t-il dit. « Mais c'est la loi. » « Je suis vraiment désolé. » « De quoi ?» a demandé quelqu'un. « Il faut que je vous lâche. C'est la loi. Je suis obligé. Je dois toutes vous lâcher. » Il a dit cela presque avec douceur, comme si nous étions des animaux sauvages, des grenouilles qu'il aurait attrapées dans un bocal, et qu'il faisait preuve d'humanité. « Nous sommes renvoyés ? » ai-je demandé. Je me suis levée. « Mais pourquoi ?»« Pas renvoyés !» a-t-il dit. « Lâchez !»« Vous ne pouvez plus travailler ici, c'est la loi !» Il s'est passé les mains dans les cheveux et j'ai pensé. Il est devenu fou. La tension a été trop forte pour lui et ses plombs ont sauté. « Vous ne pouvez pas faire une chose pareille !» a dit la femme qui était assise à côté de moi. Sa phrase sonnait faux, invraisemblable, comme quelque chose que l'on dirait à la télévision. « Ce n'est pas moi » a-t-il dit. « Vous n'avez pas compris ? Je vous en prie. Partez. Tout de suite. » Sa voix montait. « Je ne veux pas de grabuge. S'il y a du grabuge, les livres risquent d'être perdus. Il y aura de la casse. » Il a jeté un regard par-dessus son épaule. « Ils sont dans mon bureau, » a-t-il ajouté. « Si vous ne partez pas maintenant, c'est eux qui vont venir. » Ils m'ont accordé 10 minutes. À présent, il avait l'air plus fou que jamais. « Il est timbré, » a dit quelqu'un tout haut, alors que nous pensions sûrement tous la même chose. Mais je pouvais voir ce qui se passait dehors, dans le couloir. 2 hommes y étaient postés, en uniforme, avec des mitraillettes. C'était trop théâtral pour être vrai. Et pourtant, ils étaient bien là. Apparition subite, comme des martiens. On aurait dit des personnages de rêve. Ils étaient trop éclatants. Contrastaient trop avec ce qui les entourait. « Laissez les machines » a-t-il dit, tandis que nous rassemblions nos affaires et sortions à la queue leu-leu. Comme si nous avions pu les emporter. Nous étions debout en groupe, sur les marches à l'extérieur de la bibliothèque. Nous ne savions pas quoi nous dire. Étant donné qu'aucun de nous ne comprenait ce qui s'était passé, nous ne pouvions pas dire grand-chose. Nous nous entre-regardions et voyons sur les visages les uns des autres l'effarement et une certaine honte, comme si nous avions été pris à faire quelque chose que nous n'aurions pas dû faire. « C'est scandaleux !» a dit une femme, mais sans conviction. Qu'y avait-il là pour nous donner l'impression que nous l'avions mérité ? Quand je suis rentrée à la maison, il n'y avait personne. Luc était encore à son travail, ma fille à l'école. Je me sentais fatiguée, épuisée jusqu'à l'os. Mais dès que je m'asseyais, je me relevais aussitôt. Je ne pouvais pas rester tranquille. J'errais à travers la maison, d'une pièce à l'autre. Je me souviens que je touchais les objets, même pas tellement consciemment, en posant seulement les doigts sur eux. Des objets comme le grille-pain, le sucrier, le cendrier du salon. Ensuite, j'ai ramassé le chat et je l'ai promené avec moi. J'avais envie que Luc rentre. Je pensais que je devrais faire quelque chose, me remuer, mais je ne savais pas quelles mesures je pouvais prendre. J'ai encore essayé d'appeler la banque, mais seulement pour obtenir le même enregistrement. Je me suis versé un verre de lait. Je me disais que j'étais trop agitée pour boire encore un café. Je suis allée au salon. Je me suis assise sur le canapé et j'ai posé le verre de lait sur la table basse, soigneusement, sans en boire une goutte. Je serrai le chat contre ma poitrine pour l'entendre ronronner contre ma gorge. Un peu plus tard, j'ai téléphoné à ma mère chez elle, sans obtenir de réponse. À cette époque, elle s'était un peu stabilisée. Elle ne déménageait plus tous les 2 ou 3 ans. Elle habitait de l'autre côté de la rivière, à Boston. J'ai attendu un peu, puis j'ai appelé Moira. Elle n'était pas là non plus. Mais quand j'ai fait une nouvelle tentative une demi-heure plus tard, elle était rentrée. Entre ces 2 coups de fil, j'étais juste restée assise sur le canapé. J'avais pensé au déjeuner que ma fille emportait à l'école. Je m'étais dit que peut-être je lui avais donné trop de sandwichs au beurre de cacahuète. J'ai été renvoyée, ai-je annoncé à Moira quand je l'ai eue au téléphone. Elle a dit qu'elle allait venir. À ce moment-là, elle travaillait pour un collectif féminin, au service des publications. Elles éditaient des livres sur la contraception, le viol, des sujets de ce genre. Mais il faut reconnaître qu'ils étaient moins demandés maintenant qu'ils ne l'avaient été. Elle a dit « J'arrive ». Elle avait dû sentir à ma voix que c'était ce que je souhaitais. Au bout d'un moment, elle était là. « Alors ?» dit-elle. Elle a jeté sa veste, s'est affalée dans le grand fauteuil. « Raconte ?»« Mais d'abord, on va prendre un verre. » Elle s'est levée, est allée à la cuisine et nous a versé 2 scotch. Elle est revenue, s'est assise, et j'ai essayé de lui raconter ce qui m'était arrivé. Quand j'ai eu terminé, elle a demandé « As-tu essayé d'acheter quelque chose avec ton ordinacarte aujourd'hui ?»« Oui. » Je lui ai raconté aussi cela. « Ils les ont gelés », a-t-elle dit. « La mienne aussi. Celle du collectif aussi. Tous les comptes qui portent un F au lieu d'un M. Il leur suffit d'appuyer sur quelques boutons. Nous sommes coupés. » J'ai objecté. Mais j'ai plus de 2 000 $ à la banque, comme si mon compte à moi était ce qui importait. Les femmes n'ont plus droit à la propriété. C'est une nouvelle loi. As-tu regardé la télé aujourd'hui? Non. On en parle. On parle que de ça. Elle n'était pas stupéfaite comme je l'étais. Elle était bizarrement triomphante. Comme si elle s'attendait à tout ceci depuis un certain temps, et que maintenant, la preuve était faite qu'elle avait raison. Elle avait même l'air plus énergique, plus déterminée. Elle a dit « Luc peut utiliser ton ordinacompte pour toi. Ils vont transférer ton numéro sur le sien, du moins c'est ce qu'ils disent, sur celui du mari ou du plus proche parent de sexe masculin. » J'ai demandé « Mais toi ?» Elle n'avait personne. « J'entrerai dans la clandestinité. Certains des homos peuvent reprendre nos numéros et nous acheter ce dont nous avons besoin. » J'ai dit « Mais pourquoi? Pourquoi ont-ils fait ça ?»« Nous n'avons pas à connaître leurs raisons, » a dit Moira. « Il fallait qu'ils procèdent ainsi, les ordinacomptes et les emplois en même temps. Tu t'imagines les aéroports autrement? Je te parie qu'ils veulent pas qu'on se tire ailleurs. » Je suis allée chercher ma fille à l'école. Je conduisais avec une prudence exagérée. Quand Luc est rentré à la maison, j'étais assise à la table de la cuisine. Elle dessinait au crayon feutre à sa petite table à elle, dans le coin, là où ses dessins étaient affichés, à côté du réfrigérateur. Luc s'est agenouillé à côté de moi et m'a entouré de ses bras. « J'ai entendu, à la radio de la voiture, » a-t-il dit. en rentrant à la maison. « Ne t'en fais pas, je suis sûre que c'est provisoire. » J'ai demandé « Est-ce qu'ils ont dit pourquoi ?» Il n'a pas répondu à ma question. « Nous nous en tirerons, » a-t-il dit, tout en m'embrassant. J'ai repris « Tu ne sais pas l'effet que ça fait. J'ai l'impression qu'on m'a coupé les pieds. Je ne pleurais pas. Mais je ne pouvais pas le prendre dans mes bras. « Ce n'est qu'un job, » a-t-il dit, pour essayer de m'apaiser. « J'imagine que tu vas récupérer tout mon argent. Et je ne suis même pas morte. » J'essayais de plaisanter, mais ma blague a sonné macabre. Il a fait « Chut !» Il était toujours à genoux par terre. « Tu sais que je prendrai toujours soin de toi. » J'ai pensé « Il commence déjà à prendre un ton protecteur. » Puis j'ai pensé « Tu commences déjà à devenir paranoïaque. » J'ai dit « Je sais, je t'aime. » Plus tard, après l'avoir couché, quand nous étions en train de dîner et que je me suis sentie moins flageolante, je lui ai raconté l'après-midi. J'ai décrit l'entrée du directeur, comment il avait lâché la nouvelle. J'ai dit « Ça aurait été drôle si ça n'avait pas été si horrible. » Je croyais qu'il était ivre. Il l'était peut-être. Les soldats étaient là et tout. Puis, je me suis souvenue de quelque chose que j'avais vu et qui ne m'avait pas frappée sur le moment. Ce n'étaient pas les soldats. C'étaient d'autres soldats. Il y eut des marches de protestation, bien sûr, avec beaucoup de femmes et quelques hommes. Mais elles étaient plus clairsemées qu'on aurait pu s'y attendre. J'imagine que les gens avaient peur. Et quand l'on sut que la police ou l'armée, en tout cas les forces de l'ordre, ouvriraient le feu dès l'instant où les manifestants auraient commencé à se rassembler, il n'y eut plus de marche de protestation. Quelques endroits sautèrent, des bureaux de poste, des stations de métro. Mais on ne pouvait même pas savoir avec certitude qui en était responsable. Cela aurait pu être l'armée, pour justifier les recherches par ordinateur et les autres perquisitions à domicile. Je ne participais à aucune des manifestations. Luc avait dit que ce serait inefficace et que je devais penser à eux, ma famille, lui et elle. Je pensais effectivement à ma famille. Je me mis à faire davantage de travaux ménagers, davantage de cuisine. J'essayais de ne pas pleurer pendant les repas. J'en étais au point où je me mettais à pleurer à l'improviste et à rester assise près de la fenêtre de la chambre à coucher, à regarder fixement, au dehors. Je ne connaissais pas beaucoup de voisins, et quand nous nous croisions dans la rue, nous prenions soin de n'échanger que les salutations ordinaires. Personne ne voulait être dénoncé pour félonie. Me remémorer tout cela m'amène à penser à ma mère, des années plus tôt. Je devais avoir 14 ou 15 ans, l'âge où les filles ont le plus honte de leur mère. Je me la rappelle revenant à l'un de nos nombreux appartements avec un groupe d'autres femmes qui faisaient partie de son cercle d'amis toujours renouvelé. Elles avaient participé à une manifestation ce jour-là. C'était à l'époque des émeutes anti-porno. Ou était-ce celle pour l'avortement? Les deux se passaient à peu d'intervalle. Il y avait alors beaucoup d'attentats à la bombe. Dans des cliniques, des magasins de vidéos. Il était difficile de suivre les événements. Ma mère avait un bleu sur le visage et des traces de sang. « On ne peut pas flanquer la main à travers une vitrine sans se couper !» fut l'explication qu'elle donna. Salaud de flic. Salope de saigneuse, dit l'une de ses amies. Elles appelaient leurs adversaires « saigneuses » à cause des pancartes qu'elles portaient. « Laissez-les saigner !» Donc il devait s'agir des manifestations à propos de l'avortement. Je suis allée dans ma chambre pour ne pas les déranger. Elle parlait trop et trop fort. Elle m'ignorait et je leur en voulais. Ma mère et ses amies tapageuses. Je ne voyais pas pourquoi il fallait qu'elle s'habille comme elle le faisait, en salopette. Comme si elle était jeune. ni pourquoi jurer autant. « Tu es tellement prude !» me disait-elle d'un ton plutôt satisfait. Cela lui plaisait d'être plus excessif que moi, plus rebelle. Les adolescents sont toujours tellement prudes. Une partie de ma désapprobation venait de là, j'en suis sûre. Elle était machinale, systématique. Mais aussi je lui demandais une vie plus formaliste, moins à la merci d'expédients et de levées de camp. « Tu étais une enfant désirée ?»« Dieu le sait !» disait-elle à d'autres moments, en s'attardant à contempler les albums de photos où j'étais encadrée. Ces albums étaient bourrés de bébés. Mais les reproductions de moi se raréfiaient au fur et à mesure que je grandissais, comme si la population de mes doubles avait été frappée de quelque fléau. Elle disait cela avec un peu de regret dans la voix, comme si je n'avais pas évolué exactement comme elle s'y attendait. Aucune mère ne correspond jamais totalement à l'idée que se fait un enfant de la mère parfaite. Et je suppose que l'inverse est vrai également. Mais malgré tout, nous n'étions pas mal ensemble. Nous nous entendions aussi bien que la plupart des mères et filles. Je voudrais qu'elle soit ici, pour que je puisse lui dire que j'en suis enfin consciente. Quelqu'un est sorti de la maison. J'entends le claquement lointain d'une porte sur le côté de la maison, des pas sur le chemin. C'est Nick. Je le vois maintenant. Il a quitté l'allée et marche sur la pelouse pour humer l'air humide qui empeste les fleurs, la croissance pulpeuse, le pollen jeté au vent par poignées comme le naissin des huîtres dans la mer. Quelle profusion dans la reproduction! Il s'étire au soleil. Je sens l'onde des muscles lui parcourir le corps comme chez un chat qui fait le gros dos. Il est en manche de chemise. Ses bras nus sortent sans pudeur du tissu roulé. Où le hâle s'arrête-t-il? Je ne lui ai pas parlé depuis cet unique soir, vision de rêve dans le salon inondé de lune. Il n'est que mon drapeau, mon sémaphore, langage du corps. Pour l'instant, il porte sa casquette de travers, donc je suis requise. Qu'obtient-il en échange de son rôle de groom? Qu'éprouve-t-il à m'accroter pour le commandant de cette manière ambiguë? Est-ce que ça le remplit de dégoût? Ou est-ce que ça lui fait désirer davantage de ma personne? Me désirer davantage. Parce qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe réellement là-dedans, parmi les livres. Des actes de perversion, c'est tout ce qu'il sait. Le commandant et moi, à nous enduire l'un l'autre d'encre, puis à nous débarbouiller avec la langue, ou à faire l'amour sur des piles d'imprimés interdits. Eh bien, il n'est pas tellement loin du compte. Mais une chose est sûre, il y trouve son profit. Tout le monde a la main tendue d'une manière ou d'une autre. Un supplément de cigarettes, des libertés supplémentaires, non octroyées au tout venant. Quoi qu'il en soit, que peut-il prouver ? C'est sa parole contre celle du commandant, à moins qu'il ne veuille organiser une descente de police. Un coup de pied dans la porte. Et qu'est-ce que je vous disais? Pris sur le fait, à commettre le péché de Scrabble. Vite, avalez ces mots! Peut-être aime-t-il juste avoir la satisfaction d'être au courant d'un secret? Ou d'avoir quelque chose contre moi, comme on disait. C'est le genre de pouvoir qu'on ne peut utiliser qu'une fois. J'aimerais avoir une meilleure opinion de lui. Ce soir-là, le jour où j'avais perdu mon travail, Luc voulait faire l'amour. Pourquoi n'en avais-je pas envie? Le désespoir seul aurait dû m'y inciter. Mais je me sentais encore engourdie. Je sentais à peine ses mains posées sur moi. « Qu'y a-t-il ? » a-t-il demandé. « Je ne sais pas. » Il a dit « Nous avons encore. » Mais il n'a pas poursuivi pour dire ce que nous avions encore. Il m'a semblé qu'il ne devrait pas dire « nous », car que je sache, on ne lui avait rien pris. J'ai dit « Nous nous avons encore l'un l'autre. » C'était vrai. Alors pourquoi ma voix sonnait-elle tellement indifférente, même à mes propres oreilles? Alors il m'a embrassée comme si, puisque j'avais dit cela, les choses pouvaient redevenir normales. Mais quelque chose, un équilibre, s'était déréglé. Je me sentais ratatinée. Et quand il m'a entourée de ses bras et m'a serrée, j'étais aussi petite qu'une poupée. Je sentais l'acte d'amour se dérouler sans moi. J'ai pensé, ça lui est égal. Ça lui est tout à fait égal. Peut-être même est-ce que ça lui plaît. Nous ne sommes plus l'un à l'autre, c'est fini. Maintenant, je suis à lui. Indigne, injuste, inexact. Mais c'est ce qui s'est passé. Alors, Luc, la question que je veux te poser maintenant, ce que j'ai besoin de savoir, c'est ceci. Avais-je raison ? Parce que nous n'en avons jamais parlé. Quand j'aurais pu le faire, je n'ai pas osé. Je ne pouvais pas me permettre de te perdre.